mais si fou. Au lieu d'amener tous les jours du monde à dîner chez lui, à présent, il traitait ses connaissances chez le restaurateur. Il achetait des choses complètement inutiles, telles que des chaînes d'or, des pendules, des articles de ménage. Madame Arnoux montra même à Frédéric, dans le couloir, une énorme provision de bouillotte, chaufferette et samovar. Enfin, un jour, elle avoua ses inquiétudes. Arnoux lui avait fait signer un billet, souscrit à l'ordre de M. d'Ambreuse. Cependant, Frédéric conservait ses projets littéraires, par une sorte de point d'honneur vis-à-vis de lui-même. Il voulut écrire une histoire de l'esthétique, résultat de ses conversations avec Pellerin, puis mettre en drame différentes époques de la Révolution française et composer une grande comédie, par l'influence indirecte de Delaurier et du Sonnet. Au milieu de son travail, souvent le visage de l'une ou de l'autre passait devant lui. Il luttait contre l'envie de la voir, ne tardait pas à y céder, et il était plus triste en revenant de chez Madame Arnoux. Un matin qu'il ruminait sa mélancolie au coin de son feu, Delaurier entra. Les discours incendiaires de Sénécal avaient inquiété son patron, et une fois de plus, il se trouvait sans ressources. « Que veux-tu que j'y fasse ?» dit Frédéric. « Rien, tu n'as pas d'argent, je le sais. Mais ça ne te gênerait guère de lui découvrir une place, soit par M. d'Ambreuse ou bien Arnoux. » Celui-ci devait avoir besoin d'ingénieurs dans son établissement. Frédéric eut une inspiration. Sénécal pourrait l'avertir des absences du mari, porter des lettres, l'aider dans mille occasions qui se présenteraient. D'homme à homme, on se rend toujours ces services-là. D'ailleurs, il trouverait moyen de l'employer sans qu'il s'en doutât. Le hasard lui offrait un auxiliaire, c'était de bon augure. Il fallait le saisir. Et affectant de l'indifférence, il répondit que la chose peut-être était faisable et qu'il s'en occuperait. Il s'en occupa tout de suite. Arnoux se donnait beaucoup de peine dans sa fabrique. Il cherchait le rouge de cuivre des Chinois, mais ses couleurs se volatilisaient par la cuisson. Afin d'éviter les gerçures de ses faïences, il mêlait de la chaux à son argile. Mais les pièces se brisaient pour la plupart. Les mailles de ses peintures surcrues bouillonnaient, ses grandes plaques gondolaient, et attribuant ses mécomptes au mauvais outillage de sa fabrique, il voulait se faire faire d'autres moulins broyés, d'autres séchoirs. Frédéric se rappela quelques-unes de ces choses, et il l'aborda en annonçant qu'il avait découvert un homme très fort, capable de trouver son fameux rouge. Arnoux en fit un bond, puis, l'ayant écouté, répondit qu'il n'avait besoin de personne. Frédéric exalta les connaissances prodigieuses de Sénégal, tout à la fois ingénieur, chimiste et comptable, étant un mathématicien de première force. Le faïencier consentit à le voir. Tous deux se chamaillèrent sur les émoluments. Frédéric s'interposa et parvint, au bout de la semaine, à leur faire conclure un arrangement. Mais l'usine étant située à Creil, Sénécal ne pouvait en rien l'aider. Cette réflexion, très simple, abattit son courage comme une mésaventure. Il songea que plus Arnoux serait détaché de sa femme, plus il aurait de chance auprès d'elle. Alors il se mit à faire l'apologie de Rosanette, continuellement. Il représenta tous ses torts à son endroit, conta les vagues menaces de l'autre jour, et même parla du Cachemire, sans taire qu'elle l'accusait d'avarice. Arnoux, piqué du mot, et d'ailleurs concevant des inquiétudes, apporta le Cachemire à Rosanette, mais la gronda de s'être plainte à Frédéric. Comme elle lui disait lui avoir 100 fois rappelé sa promesse, il prétendit qu'il ne s'en était pas souvenu, ayant trop d'occupations. Le lendemain, Frédéric se présenta chez elle. Bien qu'il fût 2 heures, la maréchale était encore couchée, et à son chevet, Delmar, installé devant un guéridon, finissait une tranche de foie gras. Elle cria de loin « Je l'ai, je l'ai !» Puis, le prenant par les oreilles, elle l'embrassa au front, le remercia beaucoup, le tutoya, voulut même le faire asseoir sur son lit. Ses jolis yeux tendres pétillaient, sa bouche humide souriait. Ses 2 bras ronds sortaient de sa chemise qui n'avait pas de manches, et de temps à autre, il sentait, à travers la batiste, les fermes contours de son corps. Delmar, pendant ce temps-là, roulait ses prunelles. « Mais, véritablement, mon ami, ma chère amie !» Il en fut de même les fois suivantes. Dès que Frédéric entrait, elle montait debout sur son coussin pour qu'il l'embrassât mieux, l'appelait un mignon, un chéri, mettait une fleur à sa boutonnière, arrangeait sa cravate. ses gentillesses redoublaient toujours lorsque Delmar se trouvait là. Était-ce des avances? Frédéric le crut. Quant à tromper un ami, Arnoux, à sa place, ne s'en gênerait guère. Et il avait bien le droit de n'être pas vertueux avec sa maîtresse, l'ayant toujours été avec sa femme. Car il croyait l'avoir été, ou plutôt, il aurait voulu se le faire accroire, pour la justification de sa prodigieuse couardise. Il se trouvait stupide, cependant, résolu de s'y prendre avec la maréchale carrément. Donc, une après-midi, comme elle se baissait devant sa commode, il s'approcha d'elle et eut un geste d'une éloquence si peu ambiguë qu'elle se redressa tout empourprée. Il recommença de suite. Alors elle fondit en larmes, disant qu'elle était bien malheureuse et que ce n'était pas une raison pour qu'on la méprisât. Il réitéra ses tentatives. Elle prit un autre genre, qui fut de rire toujours. Il crut malin de riposter par le même ton et en l'exagérant. Mais il se montrait trop gai pour qu'elle le crût sincère. Et leur camaraderie faisait obstacle à l'épanchement de toute émotion sérieuse. Enfin, un jour, elle répondit qu'elle n'acceptait pas les restes d'une autre. « Quelle autre ?»« Eh oui, va retrouver Madame Arnoux. » Car Frédéric en parlait souvent. Arnoux, de son côté, avait la même manie. Elle s'impatientait, à la fin, d'entendre toujours vanter cette femme. Et son imputation était une espèce de vengeance. Frédéric lui en garda rancune. Elle commençait du reste à l'agacer fortement. Quelquefois, se posant comme expérimentée, elle disait du mal de l'amour avec un rire sceptique qui donnait des démangeaisons de la gifler. Un quart d'heure après, c'était la seule chose qu'il eut au monde, et croisant ses bras sur sa poitrine, comme pour serrer quelqu'un, elle murmurait « Oh oui, c'est bon, c'est si bon !» Les paupières entrecloses et à demi pâmées d'ivresse. Il était impossible de la connaître, de savoir par exemple si elle aimait Arnoux, car elle se moquait de lui et en paraissait jalouse. De même pour la Vatnaz, qu'elle appelait une misérable, d'autrefois sa meilleure amie. Elle avait enfin, sur toute sa personne et jusque dans le retroussement de son chignon, quelque chose d'inexprimable qui ressemblait à un défi, et il la désirait, pour le plaisir surtout de la vaincre et de la dominer. Comment faire? Car souvent, elle le renvoyait sans nulle cérémonie, apparaissant une minute entre deux portes pour chuchoter « Je suis occupé, à ce soir. » Ou bien, il la trouvait au milieu de 12 personnes, et quand ils étaient seuls, on aurait juré une gageure tant les empêchements se succédaient. Il l'invitait à dîner, elle refusait toujours. Une fois, elle accepta, mais ne vint pas. Une idée machiavélique surgit dans sa cervelle. Connaissant par Dussardier les récriminations de Pellerin sur son compte,